Le Seigneur nous donne toute la concentration afin qu'on puisse recevoir sa parole sainte qui est la vérité. Donc je vais continuer cette série dans le livre d'Osée. Et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le chapitre 3, des versets 1 au verset 5. Lisons pour la gloire de notre Seigneur. Osée 3, versets 1 à 5. L'Éternel me dit, « Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetai pour 15 sicles d'argent et un homère et demi d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod et sans téraphin. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Parole du Seigneur. Amen. Lorsque les apôtres de Christ ont commencé à prêcher l'Évangile, ils ont affirmé que le message, les promesses de l'Ancien Testament s'étaient réalisées dans le Nouveau Testament. Et cette affirmation soulève la question de savoir où se trouve le message de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. La grande réponse, Jésus nous la donne lui-même dans l'Évangile de Luc, au verset 24, au chapitre 24, verset 44, où il dit, « Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » D'autres réponses renvoient aux psaumes messianiques et aux prophéties qui se sont réalisées dans la vie, dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Une autre approche de la représentation de Christ à partir de l'Ancien Testament observe qu'à des moments historiques qui sont clés, le Seigneur a mis en scène des histoires, des récits, comme celui d'Osée, qui décrivent avec force ce que Jésus-Christ allait faire. L'une de ces représentations de l'Évangile se trouve dans ce chapitre. Nous avons vu au chapitre 1 qu'Osée a reçu l'ordre d'aimer une prostituée, illustrant ainsi la manière dont Israël avait rompu ce lien fidèle, ce lien d'amour avec son Dieu. Le chapitre 2 montre le prophète en train de subvenir aux besoins de son épouse infidèle. On a vu qu'il lui faisait la cour, qu'il essayait de reconquérir son épouse dans son amour. Et des versets 1 au verset 5 d'Osée 3, nous voyons que ce récit complète cet évangile. Puisque le prophète va jusqu'à acheter sa femme infidèle sur un marché aux enchères. Alors qu'Osée mettait en scène l'étonnante grâce de Dieu pour les pécheurs, ses premiers auditeurs devaient réaliser que Gomer, l'épouse infidèle, représentait Israël dans son idolâtrie incessante par rapport au Seigneur. Cependant, lorsque nous lisons ce chapitre aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est nous qui nous trouvons à cette place. Que par nos multiples péchés, Christ, dans sa grâce, est mort pour nous, nous a rachetés de nos fautes. Je vais développer trois points. Le premier point, le premier verset, donc le commandement de Dieu à aimer de nouveau Gomer. Mon deuxième point, des versets 2 au verset 3, un amour rédempteur. Et enfin, le dernier, des versets 4 au verset 5, un retour dans les derniers jours. Donc, au premier point, mon premier point, le premier verset, et nous avons vu que donc l'un des plus grands thèmes de ce récit, c'était l'amour inconditionnel de Dieu par rapport à son peuple. Nous voyons aussi que sa grâce est patiente. Cet amour qui est constant nous montre l'immuabilité de Dieu. Il ne change pas dans ses attributs. Il est constant dans son amour. Son amour ne baisse pas, ne fluctue pas. Il est constant dans ses projets également. Hébreux 13, verset 8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». La fin du chapitre 2 concluait l'histoire proprement dite avec la cour qu'Osée a fait dans le désert. Et nous lisons dans le verset, au chapitre 2, verset 16, donc, où il est écrit « C'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur, de sorte qu'elle répondait comme une jeune fille au verset 17, « Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. » Après quoi, les malédictions du péché était inversé et l'union était restaurée, rétablie au verset 25 du chapitre 2 où nous lisons « Je planterai pour moi l'eau Rouchama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Loami, tu es mon peuple. » Et il répondra « Mon Dieu. » Donc Osée 3 raconte l'histoire d'une nouvelle manière ou disons, c'est un tournant décisif dans cette relation où Gomer ne cherche pas à revenir vers Osée. Pas plus que notre salut n'est dû au fait que nous cherchons Dieu. C'est plutôt le Seigneur qui appelle son serviteur, lui disant d'agir de la manière dont Dieu agit pour sauver son peuple, au premier verset. Nous lisons que l'Éternel me dit « Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. » Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Il ressort de ce commandement que Gomer n'avait pas abandonné ses voies adultères. Elle continue, elle persistait dans son adultère. Mais comme Osée représente le Dieu de la grâce, le péché de son peuple n'est pas un obstacle à sa rédemption. Osée devait continuer à aimer Gomer et agir avec patience pour la sauver du péché et de ses conséquences. Lorsque nous considérons Osée, alors qu'il part à la recherche de sa femme infidèle, nous pouvons imaginer ce que cet amour fidèle lui a coûté. Il aurait été facile pour lui de laisser tomber, de refermer, de vivre ses blessures en interne, de ne pas rechercher cette épouse qui lui a fait du mal. Mais il allait à la recherche. Il voulait répondre au commandement de son Dieu d'aimer à nouveau cette épouse qui lui était infidèle. C'est ainsi que nous pouvons nous rendre compte de l'amour insondable de Dieu, de son amour à toute épreuve. Et il le dit au verset 1, « Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. » C'est un commandement du point de vue charnel qui est relativement impossible, mais qui n'est pas impossible à notre Dieu. Parce qu'il aime, il nous a aimés, il continue de nous aimer. « Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. » Donne le sens de ce verset pour nous, montrant un Dieu qui est prêt à persister dans l'amour, malgré nos fautes, malgré nos péchés. Un Dieu qui est prêt, même lorsque notre péché, il est près de nous-mêmes, lorsque notre péché le fait souffrir. Si l'indignité de Gomère pour un tel amour est démontrée par son adultère continu, la même chose est révélée pour Israël par son idolâtrie incessante. Israël persistait dans son idolâtrie, mais l'Éternel, dans son infini amour, dans sa grâce abondante, continuait d'aimer son peuple. L'état dans lequel Israël se trouvait est évoqué dans la référence finale d'Osée 3, verset 1, qui déclare qu'ils aiment les gâteaux de raisin. C'est pas que les gâteaux de raisin sont mauvais en soi, on en mange, c'est très bon, mais c'est juste que ces gâteaux étaient symbolisés des rituels sataniques, idolâtres à ce moment-là, lorsqu'ils adoraient Baal. Donc ils se tournaient, lorsque le Seigneur aimait Israël, Israël aimait ces idoles-là. Donc se détourner complètement de l'amour de son Dieu. Ceci s'applique bien sûr à tous les pécheurs qui choisissent les plaisirs du monde plutôt qu'une relation exclusive, une relation exclusive avec notre Dieu. Le salut des pécheurs se fait donc par la seule grâce de Dieu. En effet, seul Dieu peut réparer la brèche de notre péché en pardonnant notre culpabilité et en purifiant nos péchés. Le fait qu'il désire faire cela comme il a ordonné au prophète est au cœur de la bonne nouvelle aujourd'hui. Pour nous qui sommes des pécheurs. Romains 5, verset 8 dit: mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, ce n'est pas Baal qui est mort pour nous, c'est Christ qui est mort pour nous. Et donc c'est précisément la nature étonnante et merveilleuse de l'amour de Dieu pour les pécheurs qui met en évidence cette grâce abondante à l'égard des pécheurs. C'est sans doute le fait qu'Osée se soit exposé à tout ceci, à toute cette sordide histoire, il faut le dire, du point de vue humain, elle est sordide comme histoire, que Dieu a fait de lui un porte-parole fidèle de la grâce, de l'amour de Dieu pour tous les pécheurs. Et il devrait en être de même pour nous, que notre propre expérience de chrétiens, de la grâce de Dieu, nous donne le désir de servir Dieu, nous donne le désir de propager cette parole, cet évangile, à ceux qui sont autour de nous, mais aussi comme le commandement de Dieu, dans toutes les extrémités de la terre, d'apporter la bonne nouvelle, de faire des disciples. Amen. Mon deuxième point, des versets 2 au verset 3, un amour rédempteur. Et donc alors qu'Osée allait de l'avant pour aimer à nouveau son épouse, sa femme infidèle, il la trouva non seulement avec un amant, son amant, mais sur le marché, aux enchères des esclaves. Il n'a pas trouvé avec son amant, mais elle était sur un marché, dans une vente aux enchères. On ne nous dit pas dans la parole de Dieu comment elle en est arrivée là. Mais le fait qu'elle se soit retrouvée si démunie, si déshonorée, qu'elle ait été vendue, ce n'est pas quelque chose de très flatteur. Ni pour elle, ni pour ses amants. Il en va toujours ainsi avec le péché, qui nous laisse dans un état de désastre. Total, complet. Ça paraît beau au début, mais ce sont des relations qui sont brisées, des familles qui souffrent de ce péché-là. Et ce que nous voyons ici, une fois de plus, Osée devra payer un prix pour récupérer son épouse. Vous vous rendez compte que c'était sa femme? Mais il devait encore débourser de l'argent pour acheter son épouse. Cette fois, le prix sera réglé par l'enchère qui aura lieu sur le corps de son épouse. Nous ne connaissons pas précisément la manière dont les esclaves étaient vendus dans l'ancien Israël, mais dans les anciennes régions du monde, les esclaves étaient vendus, ils étaient tous dénudés, en fait, devant tout le monde, et les gens montaient les enchères. Ça allait comme de un cycle d'or, un cycle d'argent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, une fois de plus, Osée devra partager la honte de Gomer. Et ça, c'est pour la reconquérir son épouse qui est infidèle et qui est allée vers d'autres amants. Il semble que lorsque le Seigneur lui a ordonné d'aller aimer à nouveau, c'est le scénario que le Seigneur avait en tête, parce qu'il l'ordonne de l'aimer à nouveau et d'aller la récupérer. Et donc, nous lisons au verset 2, « Je l'achetai pour 15 cycles d'argent et un homère et demi d'orge. » Je l'achetai pour 15 cycles d'argent et un homère et demi d'orge. Donc, on peut donc estimer que l'offre totale est à environ 30 cycles d'argent. Parce que lorsque nous lisons au Exode 21-32, nous voyons que c'était le prix d'un esclave à l'époque. Donc en lisant Exode 21-32, « Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. » Donc on voit qu'il n'avait que 15 cycles d'argent. Et donc il a rajouté avec d'autres choses pour avoir les 30 cycles d'argent pour acheter son épouse infidèle. Avec cette offre, il n'y avait pas de rivaux. Il n'y avait personne pour récupérer Gomer et Osée est devenu le propriétaire de Gomer, devenu le propriétaire de son épouse. Considérons maintenant la situation du côté d'Osée. Il s'agit d'une femme qui lui a coûté sa loyauté, qu'il a vécu tout type d'humiliation, de peine, de douleur. James Boyce commente, c'est frappant, Osée pouvait faire ce qu'il voulait d'elle. S'il avait voulu la tuer par dépit, il aurait pu le faire. C'est un peu les récits qu'on voit dans le monde. À la télé, quand il y a l'infidélité, c'est soit une famille qui va en cendres parce que soit le père ou la mère ne peut pas vivre, donc je décide de brûler tout le monde. Allez, on va tous en enfer. Mais en effet, là, c'est qu'Osée pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait la tuer aussi. C'est pourtant à ce moment-là que l'amour d'Osée, qui est une illustration de l'amour de Dieu pour nous, a brûlé le plus fort. Son amour était au-dessus de la vengeance. Son amour était au-dessus de tout, au-dessus de ce que Gomer avait fait. Au lieu de chercher à se venger, il a mis les vêtements de Gomer sur elle. Il aurait pu la laisser dénudée comme ça, mais il a pris les vêtements de Gomer. Il a revêtu Gomer. Il l'a emmené dans l'anonymat de la foule et a revendiqué l'amour de Gomer qui lui revenait de droit. Le verset 3 rapporte le message du prophète à sa femme esclave. « Et je lui dis, reste longtemps. Pour moi, ne te livre pas la prostitution. Ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. » C'est une marque d'amour. une marque d'amour, comme on le dit, inconditionnel. Nous aussi, nous avons un amour qui fluctue, mais comme je l'ai mentionné, Dieu, lui, il est immuable, il ne change pas. Cet amour est là pour le pécheur. C'est par amour qu'Osée avait recherché sa femme pécheresse. Posons-nous la question maintenant. Est-ce que Dieu nous aime ainsi? La réponse est oui. Il nous aime malgré nos multiples péchés. Aussi graves qu'ils soient, il nous aime. Dieu intervient sur le marché du péché et nous achète comme Osée a acheté son épouse, pour nous libérer des chaînes du péché, pour nous libérer de l'esclavage du péché. Jean 3,16 déclare: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le tant aimé n'est pas anodin. Ce passage est un résumé concis du message de l'évangile du Christ. Liant les événements de la mort de Jésus à l'amour de Dieu pour le monde qu'il a créé, pour sa créature. Dieu a véritablement aimé sa création d'un amour incomparable. Christ est venu mourir pour nous en tant que sacrificateur, en tant que notre roi. Et quiconque croit en lui a la vie éternelle et ne sera pas perdu. Si nous nous demandons ce que cela signifie, il nous suffit de regarder Osée, comment il a agi, comment il a opéré avec son épouse, lorsqu'il va payer le prix de sa liberté en demandant son amour en retour. Et cela démontre également l'amour rédempteur de notre Dieu. Et donc les spécialistes de l'Ancien Testament débattent sur le verset 3 de ce chapitre 3, en grande partie, disons, à cause de la clause finale. Et que veut dire exactement « et je serai de même envers toi » ?« Et je serai de même envers toi » Donc certains disent que Osée reprend Gomer à s'abstenir seulement d'adultère, mais de toute relation intime avec qui que ce soit, même avec lui aussi, même avec Osée. Lui-même s'engage à la même abstinence de son côté. Et donc, nous sommes en face d'une relation qu'on appelle platonique, d'une relation d'où le couple est affecté par le péché. Donc, il n'y a aucun rapprochement, il n'y a aucune intimité, et chacun vit de son côté. Mais selon cette interprétation, le mariage n'est pas véritablement rétabli. Ce qui semble aller à l'encontre de l'objectif du récit. Donc, plus vraisemblablement, le prophète mettait en place une période qui était qu'on appelle période de probation, une période de sevrage, pour Gomer et ainsi que pour lui. La vie conjugale serait reléguée en second plan, mais l'intimité spirituelle reviendra au premier plan. C'est ainsi, en fait, lorsque on a des difficultés de couple, ainsi de suite. Et c'est ce qui fait aussi que c'est important d'être marié dans le Seigneur, parce que nous savons que nous pouvons nous approcher de notre Dieu, que dans des difficultés de couple, nous pouvons nous asseoir, prier ensemble, même s'il n'y a pas, disons, un engagement conjugal, mais l'engagement spirituel fait que tout puisse découler et revenir à la normale par la suite. Amen. La principale raison de cette interprétation est le parallèle entre les nombreux jours. Reste longtemps, d'Osée 3, du verset 3 plutôt, et les nombreux jours, reste longtemps du verset 4, qui se réfère clairement aux années d'exil du peuple d'Israël. Ainsi, Gomer pratiquerait l'abstinence intime pendant un certain temps. Puis, dit-il en substance, « Et je serai de même envers toi. » Il fera de même également envers Gomer, parce qu'on peut se dire, dépendamment, il y a peut-être plus de relations de confiance, ainsi de suite, il y a quelque chose qui est brisé. Donc, il se donne cette période de pouvoir se rapprocher de Christ, intimité spirituelle, afin que le Seigneur puisse remettre, de faire revivre tout dans ce couple. Cela est logique à plusieurs égards. D'une part, il est difficile d'imaginer oser entrant immédiatement dans des relations intimes avec elle, et ainsi de suite. D'autre part, il serait important pour elle de sevrer son cœur, de se répentir, de réparer ses erreurs et de se restaurer. Il en va de même de tout pécheur. Nous nous répentons de nos péchés, nous réparons nos erreurs, et le Seigneur, par sa grâce, nous restaure. Quelle que soit la signification précise du verset 3, de ce verset 3, son énoncé final finit par dire « Et je serai de même envers toi ». Notre rédemption en Christ appelle un changement qui est tout aussi radical, complet, lorsque nous péchons. Il nous faut apprendre à nous repentir de nos fautes afin de recevoir le pardon de Christ, le pardon de notre Seigneur. Cependant, le contexte dans lequel nous recherchons douloureusement la grâce de changer ou de reformer nos vies, c'est l'amour de Dieu qui ne nous laissera pas partir. L'amour de Dieu est fort pour nous ouvrir les yeux. L'amour de Dieu est puissant pour montrer l'état de péché dans lequel nous nous trouvons, de nous repentir, afin de vivre en communauté, afin de vivre en parfaite harmonie avec notre Dieu. Dieu nous appelle à lui pour une sainte intimité dans une relation d'union spirituelle qui est exclusive avec lui. Et il ne donne pas moins ce qu'il demande. Il nous dit « Ne sois à aucun homme, ne sois à aucun idole, et je serai de même envers toi. » Mon dernier point, un retour dans les derniers jours des versets 4 au verset 5. Et donc, malgré ce message important de l'amour divin, le message dosé ici, dans ce chapitre 3, s'adresse à l'origine au peuple d'Israël. Le mariage difficile du prophète et de Gomer était censé représenter cette relation entre Israël et son Dieu. Et donc, en gardant cela à l'esprit, on peut voir un parallèle, ce genre de parallélisme, entre le mariage d'Osée et de Gomer et la relation entre Israël et son Seigneur. Tout comme Gomer doit subir une période de sevrage où elle est délivrée du pouvoir du péché, l'exil engloutira bientôt les 10 tribus du Nord. Nous lisons au verset 4, « Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans théraphim. » Et ce sont des ressources auxquelles le peuple d'Israël avait mis toute sa confiance. Ils avaient mis toute leur confiance en ces choses, au lieu de faire confiance exclusivement à Dieu Tout-Puissant. Et certaines d'entre elles étaient bonnes en soi, mais d'autres, non. On a le peuple d'Israël qui avait bénéficié des rois forts, comme Jéroboam II, qui s'appuyait sur une royauté qui était quand même, qui était, quand on lit les récits, qui était assez compétent. Cependant, le roi ne les avait pas conduits dans la piété. Ces rois ne les avaient pas dirigés dans une vie de sainteté. Ainsi, le Seigneur n'allait pas seulement supprimer, comme on l'avait vu dans le chapitre 1, la lignée de Jéhu, mais allait faire de ce peuple un peuple sans roi, sans chef. On peut voir, c'est, la symbolique est grosse quand même. Un peuple, vous imaginez un Canada sans président, c'est l'anarchie totale. On voit Haïti, par exemple, à un moment donné, qui s'est retrouvé sans président, sans autorité. Mais c'était l'anarchie. N'importe qui veut prendre le pouvoir. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe dans un État qui n'est pas dirigé, sans autorité. Et c'est à ça qu'Israël allait être confronté, sans chef, sans roi et sans objet de leur culte, auquel ils avaient mis tout leur espoir, toute leur confiance. De même, le sacerdoce représenté par l'éphod, qui était un tablier des prêtres, qui était plus lié aux pratiques oraculaires, leur serait retiré. Les autres objets, probablement associés à l'idolâtrie, qui les plaçaient sous le jugement de Dieu, donc les faux sacrifices, on a les piliers du temple païen, et puis le téraphin, qui était le téraphin des petites figurines que les gens mettent chez eux et qu'ils adorent. Le Seigneur allait retirer tout cela de leur vie parce qu'ils violaient la parole de Dieu. La captivité des tribus du Nord n'était pas un simple jugement, mais la discipline fidèle de Dieu, aimant, qui savait qu'une action radicale était nécessaire pour ce peuple, afin de séparer leur cœur de ces idoles. Ils allaient subir la discipline du Dieu Tout-Puissant. Et Hébreux 12, verset 10, nous lisons, « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Et donc, Hébreux 12, 10 observe que, comme un bon père, Dieu nous discipline pour notre bien. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Au contraire, il nous aime. C'est pourquoi il nous discipline, afin que nous gardions et nous partagions sa sainteté. Tout comme Gomère avait besoin d'abstinence pour maîtriser son idolâtrie, les Israélites avaient besoin de s'éloigner des institutions de leur pays qui les avaient conduits à une impiété et à une idolâtrie envers Dieu. Duane Garrett, un spécialiste de l'Ancien Testament, écrit « Par analogie, Israël sera pour un temps sans monarchie, sans sacerdoce et sans idole. À la fin de sa période de probation, l'idolâtrie ne reviendra jamais, mais une monarchie purifiée et un véritable culte reviendront. » C'est ce que le Seigneur fait lorsqu'il nous purifie. Nous passons par des épreuves difficiles où nous souffrons dans notre corps, mais c'est nécessaire pour notre purification. Pour lui, c'est nécessaire de nous l'imposer pour nous édifier, afin d'arriver à une sainteté parfaite avec lui. Tout comme Israël a été châtié par le long exil causé par son péché, Dieu utilise souvent les épreuves pour purifier les chrétiens des pratiques pécheresses. 1 Pierre 1, 6, 7 déclare que c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Et ici, ce qui est puissant quand même, c'est l'image de l'orfèvre. Je ne sais pas si vous connaissez l'orfèvre. L'orfèvre, je vais prendre un exemple. J'aime bien ces films-là lorsqu'on voit quelqu'un en train de battre le fer dans une fournaise ardente et puis qui la plonge par la suite dans de l'eau et on voit que tous les scories, toutes les impuretés ne sont plus là. Donc, il peut regarder à travers son épée, le reflet de son visage. Et c'est de cette façon que le Seigneur travaille avec nous. Donc nous passons par des épreuves et par la suite, toutes les impuretés partent et de sorte que le Seigneur puisse retrouver ce reflet-là de sa créature à travers lui. Est-ce qu'on a senti que Dieu a effectué ce genre de travail dans notre vie ? En tant que chrétiens, nous sommes souvent incertains des objectifs de Dieu lorsque nous traversons des épreuves. En fait, nous nous posons les questions, pourquoi ? Pourquoi le Seigneur permet que je traverse ces épreuves ? Mais avec l'action de Christ, apprenons à crucifier les pourquoi. Parce que Dieu a un plan pour nous. Il a décrété toute chose. Il est souverain sur toute chose. Si nous traversons des difficultés, nous traversons des épreuves qui sont difficiles ou pénibles à vivre au quotidien, gloire lui soit rendue. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Le jour viendrait pour Israël où ce long processus de purification serait achevé. Son succès se manifestera par le retour du peuple au Seigneur dans une foi véritable et exclusive à son Dieu de grâce. Il reviendrait lorsque la voix de sa parole se ferait à nouveau entendre. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. En se soumettant avec respect à la bonté que l'amour tendre d'Osée pour sa femme égarée avait mise en évidence. Israël n'adorera plus de veau d'or, mais reviendra en tremblant vers Yahvé, tout en étant humilié. Jean Calvin, dans l'institution de la religion chrétienne, observe que la piété engendre le respect de Dieu. Mais la douceur de sa grâce aussi, agréable qu'elle soit, apprend aux êtres humains à s'émerveiller avec crainte afin de dépendre entièrement de lui, se soumettant à sa puissance. C'est que dans ce travail, dans ce long processus, nous apprenons, lorsque Christ nous libère, à dépendre de son entière grâce, de sa grâce abondante et de son amour inconditionnel. Entendant l'appel de Dieu, le peuple d'Israël reviendra dans la foi à l'Éternel leur Dieu. Et David, le roi, au verset 5. David, bien sûr, est mort depuis longtemps. Mais son descendant et héritier, Jésus-Christ, les appellera à la foi salvatrice à son évangile. Il en va de même pour nous lorsque nous venons à Jésus. Nous nous repentons de notre confiance en nous-mêmes. Nous nous reposons sur Christ. Nous cherchons le Seigneur dans sa miséricorde et nous répondons à l'appel de Jésus pour le salut. Au jour de Christ, il y aura un nouveau peuple de Dieu qui sera unifié, du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, juifs et païens. La question qui demeure est de savoir quand Israël reviendra à l'Éternel et à sa bonté dans la suite des temps, comme on le voit au verset 5. Certains commentateurs prémillénaristes considèrent que ce retour aura lieu soit un peu avant le retour de Christ, soit pendant un âge millénaire après la seconde venue de Christ. Mais ici, du point de vue des prophètes, quand nous lisons dans la suite des temps, peuvent signifier toute œuvre rédemptrice, future importante, que Dieu opère. La Bible indique clairement qu'il s'agit avant tout de la période de l'histoire de la première venue de Jésus-Christ. Dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection et de son ascension au ciel. C'est ainsi que Paul a écrit à Timothée au sujet de leur travail ministériel dans les derniers jours. 2 Timothée 3, verset 1. Hébreux 1, verset 2 aussi, oppose le Nouveau Testament à l'Ancien, où nous lisons « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, il nous a parlé dans la vie, dans la mort, dans la résurrection et dans l'ascension de Christ. Le « dans la suite des temps » est la période de l'histoire dans laquelle nous vivons. Alors que l'Évangile va jusqu'aux extrémités de la terre et que tous les pécheurs se détournent de l'idolâtrie pour chercher et adorer le vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant. L'effet de la discipline que nous voyons au verset 4 était de transformer les Israélites qui étaient exilés. Un point de vue qui est confirmé par la manière dont le Nouveau Testament traite Osée dans Romains 9, versets 25 à 26 que nous lisons. « Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seraient appelés fils du Dieu vivant. » Et dans 1 Pierre 2, verset 10 aussi, nous lisons « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » En gardant ce point de vue à l'esprit, nous constatons que l'appel lancé à Israël est un appel qui nous est aussi lancé aujourd'hui. Nous devons abandonner nos idoles. Nous devons abandonner notre péché. Ce péché-là même qui nous éloigne de la face de notre Dieu. Nous devons revenir à lui en cherchant le Seigneur notre Dieu, en nous rendant avec respect à la bonté de sa grâce qui est offerte par son évangile. Tim Chester écrit que Jésus est celui qui, en fin de compte, met fin à cet exil. C'est Jésus qui met fin à cet exil, à cette souffrance. Jésus est le roi promis par Dieu, le nouveau David, qui nous ramènera à Dieu. En conclusion, il nous convient de nous dire que l'histoire d'amour entre Osée et Gomère, le prophète et la prostituée, nous pouvons voir la profondeur de l'amour de notre Dieu. Nous parlons souvent dans nos prières d'un amour inconditionnel. C'est exactement cet amour. Un amour qui ne fluctue pas. Un amour qui va libérer le pécheur de son esclavage du péché. Christ nous a témoigné son amour en mourant pour nous sur l'infâme bois. Il est mort de la pire des morts pour nous racheter. Nous lisons dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, ce n'est pas Baal qui est mort pour nous, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Aucune idole ne peut mourir pour nous. Il n'y a que Christ par son sacrifice. Et ce sacrifice-là qui nous donne la vie éternelle. C'est l'œuvre salvatrice de Jésus qui comble le vide. Comment Dieu nous a-t-il aimés avant même que nous ne soyons détournés du péché ? comment Dieu nous a aimés. Même nous, comment, je prends l'exemple toujours des enfants, d'un enfant. Un enfant qui agit mal, c'est vrai qu'on l'aime, mais nous pouvons sévir avec cet enfant. Des fois, cet enfant va nous causer des tristesses, surtout pour des enfants qui ne connaissent pas le Christ. Ça nous met dans des sentiments. Nous sommes, par amour, souvent, nous prenons des décisions qui sont irréversibles. Mais Dieu est fidèle dans son amour. Il n'a pas un amour comme nous qui va soit fluctuer, soit baisser, mais il est constant dans ses projets. Et il nous le démontre par le sacrifice de Christ. Paul répond, Dieu montre son amour pour nous en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Et nous devons avoir cela à l'esprit. Lorsque tout nous arrive, toutes les difficultés, toutes les épreuves, mais rien que le fait de savoir que Christ est mort pour nous, nous devrait donner cette joie qui est inestimable pour le monde. Le point de vue que nous devons adopter lorsque nous regardons l'attitude d'Osée par rapport à Gomère, car la réalité est que le péché nous réduit à l'esclavage. Notre péché nous réduit à l'esclavage. Lorsque nous débutons, lorsque nous commençons à embrasser le péché, et ainsi de suite, ça devient une routine. Mais en effet, c'est l'esclavage. Nous sommes pris dans les chaînes du péché. Et la seule personne qui est capable de nous libérer de ces péchés, c'est Christ. C'est pas par nos propres fautes, nos forces plutôt. Le monde nous offre la célébrité, l'argent, tous les meilleurs emplois qu'on peut avoir dans le monde. Mais toutes ces choses sont éphémères. Toutes ces choses sont passagères. Mais lorsque tout semblait perdu, Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, sur la place du marché pour racheter tous les pécheurs. Et il n'y avait pas d'offre plus grande que celle-là. Il n'y avait aucune offre qui pouvait battre cette offre. Et il nous a pris et il nous a revêtus non pas des robes sales de notre ancienne vie, de notre iniquité, mais il nous a revêtus de son linge de justice. Par sa mort, nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés par la mort de Jésus-Christ, par son sang versé. Et il nous le dit aujourd'hui, au verset 3 d'Osée 5, « Reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. » Et il nous le dit aujourd'hui, d'abandonner nos voies idolâtres, de le suivre fidèlement et exclusivement. Et il sera de même avec nous aussi. Réalisant ce qui est vrai pour Gomère, pour Israël, l'est aussi pour nous. Et surtout comprenant, par rapport à Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, ce n'est pas la vie éternelle. C'est la mort éternelle. Et voyant dans le sang de Christ que Christ a versé pour nous son amour inconditionnel. Sans condition. Il ne nous dit pas que je meurs pour toi et toi fais ça pour moi, fais telle œuvre. Non. Il n'y a aucune œuvre qui nous donne la vie éternelle, si ce n'est que son sang qui a coulé pour nous. Jésus a non seulement assumé notre culpabilité, mais il a porté notre honte. Lui qui était un Dieu, lui qui était divin, il s'est rabaissé, il s'est humilié en prenant notre nature et en mourant de la pire des manières sur l'infâme bois pour que nous ayons la vie éternelle. Donc il a porté sa honte, notre honte sur lui. Il a pris tout le châtiment qui pesait sur nous. Il a pris sur lui. Le grand désir de notre cœur est de vivre dans la fidélité, en donnant notre vie par amour au Sauveur, que nous suivons maintenant comme notre Seigneur. Nos péchés ont été rachetés par le prix du sang de Jésus-Christ. Ce qui doit résonner dans nos cœurs, c'est ce que l'apôtre Paul a écrit à Tite. Dans Tite 2, les versets 11 à verset 14. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Un peuple qui lui appartienne. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, quelle joie, quel privilège d'être aimé inconditionnellement par un Dieu tout-puissant, par un Dieu trois fois saint. Ce Dieu-là même qui sait, qui a ce cœur pour la misère, qui a vu notre misère, il a vu notre besoin d'avoir un sauveur. Il nous a envoyé Christ mourir pour nos péchés. Seigneur, tu connais l'état de nos cœurs. Tu connais tous les innombrables idoles qui nous absorbent, qui nous éloignent de ta face. Pardon, Seigneur, pour nos innombrables péchés. Pardon pour ce que nous sommes, Seigneur, des hommes et des êtres corrompus. Seigneur, nous aspirons à une vie sainte par ta grâce. Donne-nous la force, le courage de nous attacher à ta sainte parole et espérer uniquement à Christ qui s'est donné lui-même pour nous sauver, qui a payé un prix pour nous racheter de l'esclavage du péché. Seigneur, tu nous as bénis. Tu nous aimes inconditionnellement, Seigneur. Et comme nous l'avons vu, Seigneur, tu ne changes pas. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, nous voulons revenir à toi. Si nous nous étions égarés de quelconque manière éternelle, dans nos offenses, dans notre péché, dans notre inconduite, Seigneur, nous voulons revenir auprès du Père. Tout repentant, tout humilié, afin de réparer par ta grâce ce que nous avons fait, Seigneur. Parce que nous savons que toi seul es capable de nous laver de nos péchés et de nous rendre plus blancs que la neige, Seigneur. Te prions, Seigneur, de nous restaurer dans ton amour, de nous donner cette espérance. Que nous vivions avec toi, que nous allons vivre avec toi, Seigneur. Et que même dans ce monde où nous sommes de passage, que nous ayons à l'esprit que nous courons et nous marchons vers la Jérusalem céleste. Et que tu es là, que tu nous aides par ta grâce, en nous donnant la force, le courage, à travers ta parole et à travers le témoignage de Christ, qui a vécu, qui est mort et qui est monté au ciel. Pour nos péchés, Seigneur, et pour nous racheter. Que la gloire et l'honneur te reviennent, notre Dieu et notre Père. C'est au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, que nous te prions, Seigneur. Amen. Amen.